que je vais faire ici, c'est, je vous donnerai, vous avez des pages d'une bibliographie et d'une vie, du résumé de la vie de Newman par petits points. Mais avant d'aborder ça, je voudrais d'abord dire quelques mots d'introduction sur la manière de penser ce cheminement intellectuel et spirituel de Newman. Au fond, il y aura trois parties dans ma, ou deux parties si vous voulez, dans le cours que je vais vous donner, suivant ce que le père Bernard m'a demandé de faire, c'est-à-dire une importance donnée, plus grande donnée au cheminement spirituel intellectuel de Newman, et seulement dans la deuxième partie, d'examiner sa psychologie de la foi. Et en partie, c'est à cause de la béatification de Newman que c'est intéressant de voir l'homme, si vous voulez, comment il a été. Alors que dans les cours sur Newman, dans des années antérieures, j'ai peu parlé de ce cheminement spirituel intellectuel pour aborder uniquement l'intérêt pour la théologie, cette psychologie de la foi qui complète, si vous voulez, les visions, la formulation dogmatique extrêmement précise et bien équilibrée de Vatican I. Au fond, la théologie de la foi, ou surtout la psychologie religieuse de la foi de Newman, est comme un complément de Vatican I qui a abordé justement le problème dans la constitution des filius, de la relation entre une raison revendicative à l'époque, et puis maintenant c'est un peu la molasse, le caoutchouc, mais enfin bon. Une raison revendicative, et puis la transcendance du seul naturel par rapport à ça. Mais ici, maintenant, dans ce contexte où nous sommes, avec la béatification humaine, je me suis dit, je donnerai une partie de mon cours à ce cheminement pour vraiment le regarder un petit peu de plus près, encore que ce soit encore qu'un résumé très insuffisant, mais vous serez au moins stimulé pour essayer de découvrir ça. Et puis la deuxième partie sur la psychologie de la foi. Alors ici je voudrais introduire justement ce cheminement spirituel en disant dans quel esprit je le fais. Et alors là, j'ai finalement trois points à souligner, que je voudrais souligner avant d'aborder ce cheminement intellectuel et spirituel de Newman. Je vais les mettre sur le tableau. Le premier point, c'est l'originalité de Newman. Donc, c'est une introduction à ce cheminement spirituel. Et le cheminement, l'originalité de Newman. Puis un deuxième point, le lien entre sa pensée et sa vie. Et là, ça nous introduira à regarder le cheminement qui n'est pas point séparé comme ça que vous avez sur une de vos feuilles là, et aussi la bibliographie que je vous ai donnée. Le lien entre ces grandes œuvres et le cheminement. Et même ces œuvres principales et ce cheminement. spirituel et intellectuel. Du point de vue de l'évolution ou du cheminement spirituel et humain, je vous signale que c'est dans la bibliographie que vous avez là, il y a quand même un ouvrage qui est quand même de grande valeur, c'est l'itinéraire spirituel de Newman, qui était la thèse de doctorat de Monseigneur Honoré, qui est maintenant un évêque, qui est cardinal évêque, qui est retiré du ministère, il est en retraite. Mais il a fait ça, je pense, d'après les indications qu'il y a dans les notes en bas de la bas des pages, il a fait ça sous la direction de Bouillet. Et alors, sous la direction de Bouillet, il a eu accès à Birmingham à beaucoup de documents qui sont restés encore à l'état simplement de manuscrits, c'est-à-dire surtout la correspondance qui restait pour une bonne part manuscrite, ce qui lui a permis de pénétrer plus profondément dans l'âme de Newman qui voulait décrire et qui sur laquelle, si vous voulez, Newman est très discret, sauf effectivement dans l'apologie, quand même, il décrit son cheminement, surtout dans les idées, parce que mais sa vie spirituelle profonde n'apparaît pas tellement dans l'apologie, si un peu quand même. Mais surtout, toutes ses souffrances dans le catholicisme, après, où il a été mis à l'écart, incompris, objet d'intrigue, enfin, toutes sortes de choses comme ça. Il y a un journal d'ailleurs que j'ai sous forme de polycopier, je ne sais pas qui est-ce qui m'a. Quelqu'un m'a donné ça à lui comme un cadeau et je l'ai comme un précieux document parce qu'on n'a pas publié le. Si peut-être dans un livre qui s'appelle Écrit autobiographique, enfin, en tout cas, la partie catholique de la vie de Newman qui est restée assez secrète, quoi. Voilà. Et on aurait quand même fait état de tout ça aussi dans ce livre sur l'itinéraire spirituel de Newman, publié au CERF dans les années 58, parce qu'elle était étudiant à l'Institut catholique de Paris. Donc, l'originalité de Newman. Si étudier la foi, j'ai dit ça un petit peu pour ce qui va venir après, si vous voulez. Étudier la foi chez Newman, c'est entrer d'emblée dans ce qui, dans ses œuvres majeures, constitue son originalité. Parce que si on pose la question, où est l'originalité de Newman, ou même qu'est-ce qu'il a apporté, si vous voulez, à l'Église catholique sur le plan proprement de la pensée, au-delà du témoignage de la vie et de tout ce qu'il a pu faire dans l'anglicanisme d'abord, pour améliorer la situation religieuse de l'Angleterre, eh bien, on pourrait dire que c'est. Il y a deux choses. C'est sa psychologie de l'acte de foi, qui complète très heureusement cette vision beaucoup plus métaphysique et doctrinale et dépouillée de l'enseignement du Vatican I, et aussi essai sur le développement de la doctrine chrétienne qui a vraiment été une œuvre de pionnier dans un domaine justement qui était difficile. Et on a eu tendance à écarter ça du côté catholique au nom d'une scolastique quelquefois qui n'acceptait pas que des éléments non conceptuels entrent dans le développement du dogme, alors que toute l'histoire montre ça avec évidence, et que l'économie du salut ne peut pas être simplement développée selon un schéma purement conceptuel, et que Newman a regardé en face ce problème justement d'un développement qui n'a pas simplement une justification dans le purement théologique et conceptuel, mais où il y entre l'apport de la foi subjective des individus, les tournants de l'histoire, les hérésies et tout un ensemble de choses, si vous voulez, qui fait que l'Église est obligée de regarder plus près le dépôt de la foi et d'en sortir des perceptions qui sont nouvelles, si vous voulez, voilà. Et Newman a quand même fait un œuvre de pionnier là-dedans. Alors, certaines théologies en France ont quand même donner plus de fondement métaphysique et ecclésiologique à ce qu'il avait dit, parce que Newman se récusait toujours d'être métaphysicien, il voulait rester toujours sur le plan de la psychologie concrète. Et en fait aussi, son ecclésiologie reste un petit peu en manque par rapport à ce que nous voyons comme ecclésiologie de communion, qui fonde mieux, si vous voulez, comment se fait le déploiement du plan du salut dans l'Église et par l'Église, si vous voulez. Voilà. Donc il y a, on a apporté sur le plan de la métaphysique et sur le plan l'ecclésiologie des compléments à cette œuvre monumentale de Newman, mais fondamentalement le pionnier de tout cela c'est quand même lui, voyez. Donc, et même je dirais que Walgrave a montré ça très bien dans son ouvrage sur Newman, le développement du dogme chez Newman. La conception qu'avait Newman de la psychologie de la foi est un peu la clé de la manière dont il conçoit comment les doctrines peuvent éclore dans la spécificité à partir d'intuitions plus vastes et plus profondément intuitives, etc. Mes idées maîtresses, comment les idées maîtresses dans la conscience psychologique et religieuse d'un être humain peuvent faire éclore des connaissances spéculative ou pratique plus précise, eh bien, par conséquent, sa psychologie de la foi et sa manière même d'aller au problème du développement du dogme, aussi bien que les deux grands axes de la pensée originale de Newman trouvent la unité là. Donc, je lis un petit peu mes notes ici. Newman a situé l'acte de foi comme passage de la non-foi à la foi, puis comme recherche une compréhension toujours plus profonde et plus élaborée du don révélé par rapport à l'activité de notre psychisme dans ce qu'il a de plus complexe et de plus subtil. Et qu'il dit qu'au fond, le croyant classique ne raisonne pas logiquement pour justifier sa foi. Il voit des signes, il fait des liens, etc. Bon. C'est dans ce sens qu'il faut parler d'une psychologie plutôt que de la théologie de l'acte de foi, bien que les perspectives auxquelles on aboutit de la pensée de Newman ouvrent sur des conséquences importantes pour la théologie. Et alors j'ajoute, comme ce que je viens de vous dire, l'illustration la plus connue et la plus féconde et de la fécondité théologique de son approche psychologique et sa théorie du développement du dogme. Voilà. C'est celle-ci qui lui a donné sa place définitive dans l'histoire de la théologie comme penseur original. Mais de ne pas oublier justement que ses analyses de la psychologie de la foi fournissent finalement pour lui la base de ce qu'il va dire sur ce développement du dogme. Je passe au deuxième point, qui est le lien entre sa pensée et sa vie concrète. Cette originalité de Newman, son approche psychologique avec ses caractéristiques, sont finalement dans une dépendance directe de ce que fut sa personnalité humaine, et religieuse, et de ce que fut son cheminement intellectuel et spirituel dans les milieux successifs où il a vécu concrètement sa foi. Et vous le devinez déjà à partir de ce que je vous ai donné comme esquisse du contexte religieux dans lequel il s'insère. Parce que, à la différence de la France, où il y avait opposition dure et idéologique entre deux possibilités, ou l'Église, ou le laïcisme, parce que le protestantisme français était quand même petit, et culturellement marginal par rapport au catholicisme. Je sais que ce n'est pas politiquement correct de parler comme ça, mais il faut dire la vérité. Une des choses dont j'ai souffert le plus, ou qui était une des découvertes, si vous voulez, pour moi, de la raison pour laquelle je pouvais souffrir en Angleterre, c'est précisément ceci, c'est que chez vous, même si la cassure de la Révolution fait qu'une partie de la France est partie dans une direction qui aboutit maintenant à la non-foi absolue, eh bien, la forme de christianisme, disons, qui a été porteuse de la culture religieuse de la France, ce n'est pas le protestantisme, c'est le catholicisme. Et alors, il y a que, par exemple, à comparer les écrits de François de Sales avec ceux de Calvin. Calvin, c'est érudit, c'est rigoureux, c'est déjà Descartes avant Descartes, mais c'est rasoir comme la pluie. Alors que les écrits de François de Sales, c'est plein de saveur humaine et spirituelle, etc., parce que c'est l'humanisme dans le sens assumé par le catholicisme. Et alors François de Sales n'a peur de rien dans cette renaissance de la culture antique, de la culture artistique, etc., qui a foisonné dans le catholicisme à partir de l'Italie. Il n'a peur de rien de tout ça. Philippe Néri et d'autres. Il n'a peur de rien de ça. Il assume cela. Alors, dans ses écrits majeurs, il y a une beauté à la fois littéraire et culturelle qui est indépassable, si vous voulez. Et c'est par là que est passée, justement, la culture de la France, même humaine et littéraire et autres, jusqu'à la Révolution et la cassure. Et heureusement que François de Sales a vécu avant Descartes, avant la catastrophe, si vous voulez, parce que sinon... Parce que... si vous voulez savoir ce que c'est que la culture unie à la foi, lisez François de Sales. Parce que François de Sales, d'ailleurs, je ne sais pas qui l'a dit, mais oui, c'est Poura, dans son histoire, dans ses quatre volumes, je vous parle de beaucoup de choses, mais je pense que c'est nécessaire pour votre culture religieuse. Poura, dans ses quatre volumes de l'histoire de la spiritualité chrétienne, dit sans embâche, François de Sales était un des hommes les plus affinés et les plus cultivés qui ait jamais marché sur la terre. Mais vous avez ça pour vous transmettre ce que vous avez, la culture. Je ne sais pas si je parle beaucoup de français ici, en fait, mais je parle quand même en disant que les Français ont ça. Et c'est pour ça que les autres pays, comme le Bénin et autres, vous voyez ce que je veux dire. Même les Américains, ils vont. Mais c'est ça que vous avez. Ça débouche sur Thérèse de Lisieux, ça débouche sur Charles de Foucault, ça débouche sur... Vous voyez, et c'est cette unité entre culture et foi qui fait qu'il puisse y avoir des saints qui donnent un message à l'Église universelle. Parce qu'il n'y a rien à faire. Pour qu'il y ait une foi portant message, il faut qu'il y ait un humus culturel pour l'incarner. Parce que Jésus lui-même était incarné. Par conséquent, il y a beaucoup de saints qui sont cachés et qui ne font pas œuvre culturelle et religieuse comme les grands saints peuvent le faire. Mais pour donner un message à l'Église universelle, à la François de Sales, il faut avoir cet humus culturel qui sous-tend la sainteté, si vous voulez, la sainteté cinquante, voilà. Et alors, mais en Angleterre, voyez, la culture religieuse a été monnayée par cet anglicanisme dont on a fait la description là. Et alors, il y a des beautés, il y a de grandes choses, et Newman le voit, mais quelle tristesse à côté de la plénitude du catholicisme. Mais une partie de l'écuménisme des catholiques en Angleterre doit être de recevoir les cadeaux de cette culture religieuse transmise par l'anglicanisme, là où il y en a, comme par exemple dans la beauté que Newman souligne ici de la lecture de la Bible. Et lorsqu'il n'y avait pas de télévision, pas de radio, pas de médias comme aujourd'hui, aller à l'église tous les dimanches et écouter l'écriture lue dans une langue belle au point de vue de son style anglais, eh bien, c'était une éducation de la personne, formation de la personne. Maintenant, la personne, je ne sais pas comment la personne est formée. Vous savez, John Wesley, qui est le fondateur du méthodisme, il connaissait la Bible du premier mot à la dernière par cœur, presque, avait une sœur, petite sœur, qui s'appelait Henriette. On l'appelait Hetty, voilà. Cette fille, à l'âge de 8 ans, lit le Nouveau Testament grec couramment. Ah bah oui. Alors comment voulez-vous par rapport à des séminaristes qui péniblement, avec un vernis de grec, déchiffrent quelques mots par ici et par là. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette maman, pour que cette fille lise couramment le Nouveau Testament en grec à l'âge de 8 ans? Mais elle a dû lui plonger la bouille dans la Bible aussitôt que notre temps était fini, si vous voulez. Mais comment voulez-vous autrement? Et c'est ça la culture. La vraie culture est là. C'est la femme qui la transmet en profondeur pour le coup. Enfin, je finis ma déviation. Newman, donc, la personnalité de Newman d'abord. Newman est à la fois supérieurement intelligent et hypersensible et très introverti et porté à l'isolement à l'égard du monde, malgré son grand besoin d'amitié. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les solitaires ont souvent un grand besoin d'amitié, mais de la foule, niette. Voilà, c'est ça. Il avait donc un pouvoir remarquable d'introspection. Il était capable de porter au niveau de la conscience réflexe les moindres nuances et les composantes les plus subtiles de ses états d'âme et de son activité psychique. Et d'autre part, il vivait cela et cette auto-analyse, non pas en repli sur lui-même, mais sous le regard de Dieu. Et c'est ça l'importance de sa doctrine de la conscience. Nous vivons chacun de nos actes sous le regard de Dieu. Et nous tremblons quelquefois devant cette pensée que nous vivons chacun de nos actes sous le regard de Dieu, qui s'introduit dans notre conscience avec l'injonction « tu dois faire ceci, tu dois faire cela ». Et Newman était hypersensible aussi à cette intervention de Dieu dans l'intime de l'être humain. Il était profondément imprégné par la crainte de Dieu au sens biblique. Les Anglais ont un mot qui est intraduisible, et c'est ce mot-là. A-W-E-O-R. Qu'est-ce que c'est que or? Vous connaissez Otto, l'analyse du. Quand quel est le titre français? The Idea of the Holy. L'analyse de l'idée de la sainteté. Vous connaissez ce livre-là? Otto, non. Qui a essayé de donner une phénoménologie de la relation avec Dieu. Et alors. Il dit qu'il y a deux pôles, il y a le fascinans et le tremendum. Et alors, dans le nord de l'Europe, c'est souvent le tremendum qui l'a emporté sur le fascinans. Hein. Le latin est fasciné par le spirituel. Le nordique se tient en dessous de la transcendance divine dans un état de horreur, de crainte religieuse, mais qui doit devenir, avec l'amour, une crainte filiale. C'est l'attitude. C'est pour ça d'ailleurs que le Seigneur a dit, bon, à partir d'Abraham, nous n'allons pas nous presser pour que notre Dieu a dit, nous n'allons pas nous presser pour que mon fils s'incarne. Parce qu'il faut d'abord que des gens à la nuque raide apprennent le respect de la transcendance divine. Et une fois qu'ils ont appris le respect de la transcendance divine, qui était devenu quelque chose de presque névrosé chez les pharisiens, et bien à ce moment-là, Dieu peut devenir un petit enfant. Mais si nous allons trop vite avec ça, il n'y aura pas de respect de Dieu. Par conséquent, la transcendance divine est dans les formes les plus simples et les plus humbles, dans l'Eucharistie. Dans l'enfant de la crèche, etc. C'est là où la transcendance divine devient immanente, mais justement avec une immanence qui annonce sa grandeur et sa majesté, sa transcendance. Et c'est ça que nous devons avoir comme acte de foi. Alors Newman avait ça chevillé à son âme d'une manière extrêmement extrêmement forte. C'est la Bible qui lui a appris à penser Dieu comme ça. D'abord, peut-être une crainte quelquefois trop rigide et trop traversée par la peur, mais après devenant filiale, si vous voulez, la crainte filiale. L'amour pénétré de révérence. C'est ça le mot or. L'amour de Dieu pénétré de révérence pour lui, si vous voulez. Donc, un sens aigu, la nécessité de se mettre à nu en toute vérité devant Dieu. Et donc, il avait un sens du péché qui est extrêmement vif aussi. Prenons un spécimen de cette capacité de regarder à la loupe cette complexité de sa motivation intellectuelle sur le regard de Dieu. On est à l'époque justement où le déchirement dans son âme atteint son paroxysme et il voit qu'il ne peut donner une justification intellectuelle suffisante à la continuation dans son appartenance à l'Église anglicane. Mais sa fidélité de conscience à ceux à qui il avait donné son obéissance en croyant que ses évêques avaient une vraie autorité sur lui le met dans un état de déchirement. Alors vous avez ça dans un des textes que je vous ai donné là quelque part. Est-ce que vous pouvez regarder ça maintenant? C'est le numéro. Maintenant, je vais être un peu perdu avec ça maintenant. Il y en a deux, non? Qu'est-ce que le numéro 1? Vous l'avez, c'est le 311 de l'apologie. Mais moi, j'ai essayé. Ouais, je ne sais pas si je rime avec moi. Vous l'avez là. C'est dans la tranche qui va avec la bibliographie. Oui, mais. Bon, ben d'accord, parce que je suis un peu perdu là. Ah, est-ce que quelqu'un peut lire ça? Vous pouvez lire la numéro 1. Il est à l'époque où il est déchiré dans l'âme entre rester dans l'anglicanisme et sortir, voyez? Bon. Allez-y, peut-être quelqu'un. À partir de ce moment,
l'Église anglicane ne fut plus pour moi une partie normale de l'Église.
On a retrouvé, oui, ça va? Oui? Ça marche? Oui, quoi? Excusez, allez-y, oui, oui.
Ne fut plus pour moi une partie normale de l'Église, une à laquelle les promesses avaient été faites. Ou, du moins, elle me parut dans un état anormal. Et dès ce moment, je dis hardiment, comme dans ma protestation et comme dans ma lettre à l'évêque d'Oxford, que l'Église à laquelle j'appartenais n'avait aucun droit sur moi, à moins qu'elle ne fît partie de la seule vraie communion catholique, et que cette condition devait toujours être présente à l'esprit comme une question pratique et devait être prouvée avec clarté. Tout cela ne contredit d'ailleurs pas ce que j'ai dit plus haut. À cette époque, je n'avais nulle pensée d'abandonner l'Église anglicane, parce que mes anciens préjugés contre Rome étaient toujours aussi vifs. Je n'avais ni le droit ni la liberté d'agir contre ma conscience. C'était là une règle supérieure à n'importe quel argument touchant les notes de l'Église.
Voyez ça. Toujours chez Newman, la supériorité de la conscience sous le regard de Dieu sur ce que l'intelligence peut faire comme raisonnement. Tout Newman est là-dedans. Il est un intellectuel malgré lui, si vous voulez. C'est ça. Il est un intellectuel malgré lui, comme beaucoup de saints l'ont été d'ailleurs. Et alors, le numéro 2. Donc, vous voyez, il y a une capacité d'élever à la conscience réflexe ses états d'âme. Or, le passage que nous venons de lire renvoie à un cheminement douloureux de cet être capable d'une telle auto-analyse. Et c'est le deuxième aspect qu'il faut brièvement prendre en compte. Maintenant, je regarde l'importance de regarder le cheminement de Newman. Au cours de ces années de réflexion et de créativité théologique passées comme anglican dans les milieux universitaires d'Oxford, Newman s'est trouvé placé par les circonstances au carrefour de tous les courants religieux et même anti-religieux du monde universitaire d'alors. Donc, il faisait l'expérience du pluralisme qui est dissolvant, comme Benoît XVI ne cesse de le dire maintenant, et qui porte au relativisme, si vous voulez. Il faisait déjà à cette époque-là cette expérience de dissolvant qui menace la dissolution de l'être, si vous voulez, dans un relativisme et un scepticisme sans objectif et et à la dérive, qui est maintenant le cas de chrétiens à travers l'Europe tout entière. Bon. Et alors, c'est cela qui marque ce qu'il va faire comme réaction contre cela, si vous voulez. Alors, je continue donc. Son cheminement est marqué directement par tous ces courants. Il a cheminé de l'évangélicalisme, donc, cette forme qui était autrefois passée église, qui élimine les éléments sacramentels ou qui les mettent à l'arrière-plan pour insister davantage sur le Christ, la Bible et la relation personnelle avec le Christ dans la foi, et qui mettent de côté, si vous voulez, les structures ministérielles et institutionnelles de l'Église. Donc, il est passé de ça à une forme dans le canisme où la référence à l'Église et à sa vie sacramentelle a peu à peu pris de place. Et de là au catholicisme romain. Donc il a fait quand même une traversée de toutes ces tendances les unes après les autres dans une recherche toujours de la vérité. Ce faisant, il a même passé par la tentation rationaliste, c'est-à-dire cette église-là, ce latitudinarisme qui met la possibilité de la critique de la religion à la première place au dépens des dogmes et d'une foi vraie, si vous voulez. Et il s'est approché du catholicisme par une forme d'anglicanisme qui n'a pas la suite de l'influence de Newman lui-même et de ses amis du mouvement d'Oxford, allait devenir l'anglo-catholicisme, autrement dit, la haute église qui avait beaucoup d'âmes fidèles quand même, tout en étant dans cette structure étatique rigide. Eh bien, le mouvement d'Oxford a fait beaucoup pour transformer beaucoup de ces personnes en véritables croyants. Et ensuite, alors, tout ceci, si vous voulez, malgré sa réticence par rapport au raisonnement, va finalement tenir, devoir beaucoup à la qualité hors ligne de son intelligence sur le plan humain et sur le plan de la grâce, à sa fidélité héroïque à l'appel de Dieu à se conformer à la vérité de sa parole, telle qu'il lui était donné à Newman de la percevoir progressivement. Et c'est un tel cheminement qui a rendu Newman si sensible à tout ce qu'il y a de tâtonnant, tout ce qu'il y a de facteur personnel, quasi incommunicable à autrui par les voies de l'explication logique du croyant qui adhère aux données révélées et cherche ensuite à en approfondir le contenu. Si vous voulez, les manuels qui ont été rédigés par des professeurs romains et autres après le Concile Vatican I ont insisté beaucoup sur l'apologétique, où c'était par raisonnement qu'on posait les motifs de crédibilité. Évidemment, il y avait un respect total de l'enseignement du Concile qui dit « Aucun motif de crédibilité ne conduit rationnellement à l'acte de foi. Il faut qu'il y ait un sceau qui accepte la foi sur l'autorité de Dieu seul qui révèle, propter autoritatem de revelantis. » Mais les motifs conduisant à ce moment où la grâce est donnée pour faire le saut entre les mains de Dieu qui révèle, eh bien, c'était toujours par des voies logiques à l'apologétique classique procédée. Et Newman disait non. Le l'être humain ordinaire ne raisonne pas de cette façon-là. Il n'arrive pas à la foi par la logique. Il y arrive par toutes sortes de voies qui tiennent finalement à la manière à sa personne, la manière dont à sa configuration personnelle, à son expérience, etc. Et là, c'est le texte numéro 2 qui est vraiment classique. C'est Newman à l'état classique, si vous voulez. Est-ce qu'on peut lire là le numéro 2 là? Enfin, une âme charitable qui est sûrement là, disponible.
Enfin.
Oui, allez-y.
Je sentais dans
toute sa force. Ah non, on a l'accent du midi maintenant, c'est bon. Excusez-moi, il faut que je sois poli avec vous. Excusez-moi. S'il y avait des femmes présentes, je serais frère. Encore. Bon. Allez, on continue.
Enfin, je sentais dans toute sa force la maxime de Saint Ambroise, non in dialectica compacuit deo salvum facere
Ce n'est pas en complaisance avec la dialectique que Dieu sauve son peuple. Ça, c'est très bien. Bon, allez, on continue.
J'avais une aversion profonde pour la logique sur papier. Quant à moi, ce n'était pas la logique qui m'entraînait.
Ah non, c'est africain, là. Ah, excusez. Oh, je suis confondu, mal. Oui, on continue. Oui.
On pourrait aussi bien dire que c'est le mercure contenu dans le baromètre qui change le temps. C'est l'être concret qui résonne.
Ah, voilà.
Laissons passer quelques années et je trouve que mon esprit s'est déplacé. Comment? C'est l'homme tout entier qui change. Les traités de logique ne font qu'enregistrer ce mouvement. Toute la logique du monde ne m'aurait pas fait évoluer plus vite vers Rome que je ne l'ai fait. Iriez-vous expliquer que je suis arrivé au terme de ma route parce que j'ai aperçu à l'horizon le clocher du village? Vous pourriez tout aussi bien prétendre que mon long itinéraire spirituel pour arriver à Rome aurait pu être évité, ce qui n'est pas vrai. Même si j'avais vu d'une façon plus nette que Rome était le terme auquel j'étais destiné. Les actes importants demandent du temps. C'est tout au moins ce que j'ai éprouvé dans mon propre cas. C'est pourquoi venir à moi avec des méthodes logiques ressemblait à une provocation. Et bien que je ne crois pas l'avoir jamais montré, la manière dont je répondais m'était en quelque sorte indifférente. Peut-être ai-je ainsi été conduit, pour soulager mon impatience, à être mystérieux ou distrait, ou même à céder, voyant que je ne pourrais répondre comme j'aurais voulu.
Alors là, il y a quelque chose d'important, parce que lorsque Newman était attaqué par Charles Kingsley d'être hypocrite, d'être mensonger finalement, parce qu'il avait un langage qui, ou une manière même d'approcher les doctrines, etc., qui est catholique, mais qui ne bougeait pas, qu'il essayait de calmer les esprits un petit peu plus frétillants qui voulaient passer à l'église catholique plus rapidement, etc. Et alors ce qu'il nous a dit, au fond, tout ça c'était de la mise en scène et de l'hypocrisie, parce que Newman savait où il devait aller finalement. Et Newman dit non, parce que je devais, dans la fidélité à ma conscience, mettre à l'épreuve jusqu'au bout les raisons pour lesquelles je devais changer. Et je n'allais pas bouger tant que la cohérence n'était pas parue absolument nécessaire à ma conscience. Et par conséquent, je suis resté consciencieux, M. Kingsley, malgré tout ce que vous dites comme contraire. Mais justement, devant des interlocuteurs qui n'avaient pas la profondeur du regard de Newman, il devait rester quelquefois un peu mystérieux, un peu distant, un peu fuyant, parce qu'il ne pouvait pas s'expliquer sur le plan justement de la conceptualisation claire. Et ça a été une souffrance terrible pour Newman, vous voyez. Bon, on continue.
Un plus grand tourment encore que les dédales de la logique, c'était l'introduction de la logique dans tous les sujets, quels qu'ils fussent. Ainsi, du moins qu'on le fit alors. Je me souviens d'une réflexion qui me fut faite avant mon entrée à Auriel. La salle commune à Auriel empestait la logique. Il est très désagréable que la poésie, l'éloquence ou la piété soient regardées comme si elles étaient faites surtout pour fournir des syllogismes.
Ben, j'arrête là. C'est-à-dire que Newman était un romantique finalement et non pas... encore qu'il était très fort, il était très fort mathématique aussi, mais il était un romantique. Mais si je lis cette phrase-là, et je le fais exprès justement, il est très désagréable que la poésie, l'éloquence ou la piété soient regardées comme si elles étaient faites surtout pour fournir des syllogismes. Eh bien, c'est comme ça que l'historico-critique des Allemands à la Dibelius, etc., on réduit Jésus à n'être rien. Parce qu'évidemment, l'intelligence de Jésus est poétique-religieuse. et par conséquent, la connexion entre ces paroles n'est pas à essayer de les donner à partir de, je ne sais pas, ceci le monte à 50 années avant que ceci et ceci à 30 années avant cela. Non, ce sont des connexions poétiques. Ils passent du coq à l'âne pour un esprit logique. Mais ça c'est le génie poétique de notre Seigneur. Et le langage de notre Seigneur est beaucoup plus profond que tout ce que nous pouvons conceptualiser théologiquement. Prenez par exemple une parole comme celle-ci. Rendez à César à ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'abord, l'opposition entre deux parties qui se balancent parfaitement au niveau du rythme fait qu'on retient ça pour toute la vie. Et d'autre part, on voit que ça règle les problèmes du rapport entre l'Église et l'État jusqu'à la fin des temps. Qui aurait pu dire une parole comme ça en réponse à un piège que les pharisiens posaient? Qui aurait pu dire ça? La sagesse incarnée. Et c'est comme ça que les paroles de Jésus, qui sont toutes de poésie et de sagesse, sont porteuses de fruits de théologie et de réflexion et de spiritualité jusqu'à la fin des temps. Et non pas des propositions conceptuelles. Il n'y en a aucune dans la bouche de Jésus. Aucune. Voilà. Et Jésus n'est jamais le mot béatitude, d'ailleurs. C'est pour ça que cette congrégation religieuse qui a pris le nom de béatitude dit, oh mon Dieu, ils ont pris une abstraction, alors que lorsqu'ils ont dit qu'ils étaient les disciples du lion de Judas et de la nuit immolée, ça voulait dire quelque chose. Bon, excusez-moi de le dire. Mais il y a quelque chose là quand même, hein. Il y a quelque chose là même. Jésus n'a jamais dit les béatitudes. Il a dit, bienheureux ceux qui. Ce qui est autre chose que de dire la béatitude, c'est. Hein? Jésus était comme ça. Là où est ton trésor, là est ton âme. Ben, une fois qu'on a entendu ça, on a pour le reste de la vie et on est jugé dans son intériorité jusqu'à la fin de sa vie. Ben, qu'est-ce qui aurait pu dire des paroles comme ça? Pas les logiciens, mais des poètes. Mais des poètes moins grands que Jésus n'ont pas dit ces paroles parce que c'était Jésus. Bon, on continue. L'exégèse doit tenir compte de tout cela, voyez, que l'âme de Jésus était poético-religieuse et non pas physico-mathématique comme Descartes. Voilà. On continue. Oui.
En parlant ainsi, je n'entends nullement attaquer la profonde piété et l'entière bonne foi qui furent les caractéristiques de cette seconde phase du mouvement.
Ah, je vous arrête là. Parce que là, Newman regarde. Ce qui est devenu le mouvement d'Oxford après son départ. Et il voit que la théologie et le désir de faire de la dialectique et de d'être en opposition avec ce groupe-ci et de foncer dans cette direction-là ont pris un petit peu le pas sur la profonde piété insérée, si vous voulez, dans des communications personnelles profonde, et bien cela a un petit peu pris le pas sur ce qui était le mouvement dans ses premiers temps, là où il en était, pour ainsi dire, le principal animateur. Et il a dit, bon voilà, l'anglo-catholicisme qui a suivi mon mouvement d'Oxford, il a pris un petit peu des caractéristiques que moi je n'aimerais pas autant que ce qu'il était ce mouvement à la première phase. Oui. Excusez-moi de vous arrêter, mais c'est important. Oui.
Ce que j'ai tenu à faire observer, c'est que cette phase eut tendance à me dérouter et à me bouleverser, et qu'au lieu de l'avouer franchement, comme j'aurais dû le faire par une sorte de paresse, j'ai peut-être fait des réponses à tort et à travers. Par suite, il se peut que j'ai paru renfermé ou versatile.
Voilà, il répond encore une fois à ceux qui l'ont attaqué et l'ont accusé de hypocrisie et de cachotterie et de toutes sortes de choses. Donc, c'est cette capacité développée d'introspection, d'analyse de nos états psychiques et de l'évolution qui fournit finalement à Newman les matériaux pour l'élaboration d'une psychologie de l'acte de foi qui, dans la grammaire de le sentiment, atteint la précision quand même d'un traité plus systématique. Encore qu'il y a tellement de digressions et de je vais illustrer ceci par ceci et autre chose, que lorsque le père dominicain qui a travaillé la grammaire de l'assentiment, qui est mort maintenant, qui a édité ça pour le, édition de Boyen et Doncel, il a fait une introduction très qui est très illuminante, parce que ça donne la charpente du livre, et il dit, mais ne laissez-vous pas tromper par les digressions, il faut suivre le fil de la pensée de l'humain à travers tout ça. Oui. C'est également dans la lente maturation de ces idées qui l'ont conduit jusqu'à l'entrée dans les livres catholiques romains, qu'il a trouvé l'analogie psychologique dont il avait besoin pour développer sa théorie du développement des idées dogmatiques dans l'histoire de l'Église. Hein. C'est-à-dire, cette analogie est celle-ci, qui est quand même très éclairante. Si, dans la direction de ma vie personnelle, j'ai cette boussole qui est ma conscience, pourquoi n'y aurait-il pas une boussole qui serait infaillible pour la direction de l'Église universelle? Ce que Dieu a fait dans la religion naturelle en donnant à l'homme la lumière de sa conscience, il l'a fait dans le domaine de la révélation explicite et de la fondation de son Église, en mettant au cœur de cette Église une puissance d'enseignement qui est infaillible. Eh bien, c'est pas mal comme argument pour des protestants subjectifs. Hein. Et il a observé avec une maximum de clarté cette inconsciente maturation et les innombrables cheminements, à peine perceptibles si vous voulez, et surtout cette unité immanente et vitale, cette finalité sûre de soi qui caractérise l'idée vivante. C'est-à-dire que l'idée vivante n'est pas le point d'arrivée d'un raisonnement logique. L'idée vivante, c'est le résultat de ce que dépose en nous toutes nos expériences dirigées par une conscience qui cherche la vérité. Voilà. Les idées qui dirigent notre vie sont les idées qui déposent en nous tout ce que notre expérience de fidélité à Dieu veut déposer en nous. Et c'est ça qui nous motive, c'est pas la logique, vous voyez. Et c'est profond, ça, hein? Parce que ça, nous sommes motivés comme ça, les saints sont motivés comme ça, non pas par des raisonnements théologiques. Hein? Il y a aucun... D'ailleurs, Newman a cette parole... cette parole très ramassée, il dit beaucoup de martyrs dans les premiers siècles sont morts pour les dogmes, à savoir la divinité de Jésus. Personne n'est mort pour une opinion théologique. Voilà. Voilà. Il situe la théologie à sa place. Hein. Mais la théologie doit être au service du dogme. Le père Marie-Eugène dans Je veux voir Dieu dit ou la théologie est au service du dogme ou elle n'est rien. Vrai ou pas vrai?